Producteur de sens.
Une émission où on met en avant les producteurs locaux qui luttent contre les pratiques industrielles des plus grands.
Techniques anciennes et innovantes.
Méthodes peu banales mais on ne peut plus locales.
C'est la passion qui fonde des producteurs de sens.
Retrouvez-les pour un nouveau portrait chaque mois, diffusé un vendredi sur deux à 17h.
Et un dimanche sur deux à 11h.
Sur Radio Bartas, 107FM. Ben voilà, nouveau numéro de producteurs de sens. Bédouès, chez Laurence Maraîchère. Accueilli par les chiens, comme il se doit. Salut les loulous. Salut Laurence. Ça va bien?
Ça va, toi?
Ouais, ça va, ta forme?
Ouais.
C'est sympa chez toi?
Ouais.
Voilà.
On aime bien, nous, oui, effectivement. Alors, je suis Laurence, installée à Bédouès depuis 2017, maraîchère depuis 2014 suite à un changement de vie, on va dire. J'ai fait ma crise de la quarantaine, donc après 20 ans dans le salariat, où j'étais plutôt dans le domaine commercial, management, j'ai voulu faire ce qui me semblait être ce pour quoi j'étais faite.
T'as combien d'hectares ici, à peu près?
Techniquement parlant, j'ai 13 hectares de surface agricole utile, la SAU, et j'en cultive 2.
C'est un choix ou c'est parce que tu te dis 2 hectares, c'est suffisant et...
C'est-à-dire que mon activité principale, c'est le maraîchage diversifié. Et 2 hectares en maraîchage diversifié, c'est déjà, à mon sens, beaucoup pour seule personne.
Tu peux nous expliquer ce que c'est que le maraîchage diversifié?
Oui, pardon. Le maraîchage diversifié, c'est donc faire une multitude de légumes au gré des saisons. Donc, c'est-à-dire, je produis à peu près une quarantaine de légumes différents entre les oignons doux, les oignons jaunes, les pommes de terre, les tomates, les poivrons, les aubergines, les radis, l'ail, les betteraves, etc. etc. quoi. Tout ce qu'on peut... presque tout ce qu'on peut manger et ce qui veut bien pousser ici.
On va voir les poules ?
Oui. Ah.
T'en as combien des poules ?
J'en ai 240.
Oh yo.
Alors oui, ça fait toujours cet effet-là, mais 240 à titre professionnel, c'est considéré comme un petit élevage.
Donc là, élevé en plein air, c'est vraiment pour les œufs. Tu fais de la viande ou...
Non, pas du tout, uniquement pour les œufs. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que je suis en maraîchage biologique. Ouais. Voilà, donc les poules sortent tous les jours. Et là, elles sont dans des petits poulaillers qu'on dit mobiles. C'est-à-dire qu'on peut les déplacer, bon, pas très souvent, mais au minimum 3 fois dans l'année, de façon à ce qu'on puisse changer les parcours et qu'elles puissent avoir un peu d'herbe. Là, tu vois le parcours qui était enherbé il y a un mois, ben voilà dans quel état il est après le passage des poules. Il n'y a plus d'herbe.
J'adore.
Et il y a de l'autre côté qui était un autre parcours, pareil. Donc on essaie de faire tourner de façon à ce que l'herbe puisse avoir le temps de repousser. Et même d'un point de vue sanitaire, c'est mieux pour elle.
Tu dis agriculture bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire label, ça veut dire cahier des charges, ou alors tu t'es juste dit, moi je suis en bio, mais je veux pas de label, je veux... Comment ça se passe exactement?
Je suis, on va dire, comme on dit, certifié bio, c'est-à-dire que j'ai le label agriculture biologique. Ça sous-entend que je respecte le cahier des charges et que je suis contrôlée au minimum une à deux fois par an par un... C'est minimum une fois, voire deux fois, où il y a vérification et cohérence entre toutes les factures d'achat, toutes les factures de vente. Et j'ai même eu une fois, donc ça c'est aléatoire, une analyse inopinée de pommes de terre. Voilà, j'ai eu un prélèvement de pommes de terre de fait. Et ils sont allés rechercher s'il y avait des matières actives interdites.
Ouais, voilà. C'est sérieux, c'est génial. Et les contrôles sont gratuits, ils viennent comme ça ou tu dois quand même payer des choses à l'année?
Alors on paye la certification. c'est un minimum de 450 euros par an. Et donc, ça nous ouvre quand même le droit de pouvoir apposer le label agriculteur biologique sur nos produits. Et ce qui nous permet aussi, pour moi ce n'est pas le cas, mais de pouvoir vendre dans les magasins bio. Si nous ne sommes pas certifiés, labellisés bio, on ne peut pas vendre dans tous les magasins bio. On ne peut pas s'auto-déclarer bio.
On va parler des canaux de distribution et des boutiques paysannes, évidemment. Un petit peu d'actu, évidemment, il y a un gros mouvement d'agriculteurs, agricultrices qui s'est levé depuis quelques mois, notamment pour parler du coût, hein, et effectivement, que les producteurs, productrices ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Quel est ton regard là-dessus, sans forcément nous dire ce que tu gagnes? Est-ce que pour toi ça va? Est-ce que tu connais des maraîchers, maraîchères qui sont en galère? Quel est ton regard sur cette agriculture un peu que tu poses aujourd'hui?
Alors oui, bien entendu, j'étais, on va dire, entre guillemets, solidaire du mouvement, parce que je sais que, notamment dans les circuits longs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne vivent pas de leur activité, malgré toutes les heures qu'ils passent à travailler. Personnellement, je ne me suis pas sentie concernée puisque je ne vends qu'en vente directe, donc je valorise au maximum ma production. Et aujourd'hui, moi, je ne vis, on va dire, à 98% que des ventes de mes produits. Je fais une déclaration PAC, donc politique agricole commune, hein, les aides de l'Europe, mais c'est quoi? C'est 1000 euros. Je ne vis pas des aides de l'Europe, donc le jour où il n'y a plus d'aides de l'Europe, ça ne changera pas ma vie. Ce que je regrette, c'est que les seules réponses qui ont été apportées aux problématiques des agriculteurs, c'est finalement, vous pouvez continuer d'utiliser des produits phytosanitaires. Donc là, c'est pas normal, c'est aberrant et la réponse n'a pas été apportée. Ce n'est pas ce que demandaient les agriculteurs. Je ne ferai pas plus de commentaires, je ne veux pas faire de politique. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage.
On peut, comme tu veux, on va où tu veux.
Ah ouais, avec grand plaisir. Le jardin aussi.
Ouais, ça c'est... Alors justement, on va parler des réseaux de distribution. Donc toi, tu es en vente directe. Donc on va dire que c'est directement de toi au consommateur.
C'est ça.
J'en fais partie. Et mais il y a aussi boutique paysanne. Alors commençons par le début. Les consommateurs comme moi, donc là, pas de marge en plus, contrairement à ce qui peut être prodigué dans certaines boutiques. Explique-nous comment ça marche.
Alors, le réseau des boutiques paysannes, donc, c'est considéré comme de la vente directe, puisque les boutiques sont gérées, autogérées par les producteurs, et nous nous relayons pour tenir la boutique. Donc, à chaque fois qu'un client vient dans une boutique paysanne, eh bien, il est servi par un producteur, un agriculteur. Donc ça, c'est considéré comme de la vente directe. Alors juste un petit rappel, la différence entre vente directe et circuit court. Circuit court, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça veut dire que circuit court, on peut avoir un intermédiaire. Donc quand on vend par exemple à un magasin bio, ça c'est du circuit court, puisqu'il y a un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, qui est le magasin bio. Moi, ce n'est pas le cas. Je ne fais que de la vente directe, donc marché, vente à la ferme et boutique paysanne.
Ici, donc, c'est celle qui est sur l'Esplanade, hein, c'est ça?
C'est ça, la boutique chez les paysans de l'Esplanade, à Florac. Et je suis également dans une autre boutique paysanne qui est à Gignac, dans l'Hérault, puisque je ne l'ai pas dit, mais en 2014, j'étais installée dans l'Hérault.
Alors, vous êtes combien dans la boutique paysanne ici sur l'Esplanade à Florac? Et concrètement, comment ça se passe pour y rentrer, si jamais les producteurs, productrices nous écoutent?
Alors, nous sommes 16 producteurs. Nous nous relayons pour tenir la boutique. Donc, c'est une boutique, comme je l'ai dit tout à l'heure, autogérée. Donc, quand vous dépensez 10 euros à la boutique, il y a 9,20 euros qui revient au producteur, puisqu'il y a un petit pourcentage qui est là pour payer nos factures d'eau, d'électricité, la location, les charges courantes et les investissements pour la boutique. Ça fonctionne de la façon suivante. Un candidat intéressé doit un minima cotisant à la MSA, Mutualité Sociale Agricole, donc avoir un vrai statut d'agriculteur. On peut être aussi artisan, donc cotiser à la Chambre des métiers. Mais la vocation des boutiques paysannes, c'est quand même plus des agriculteurs. Mmh. D'ailleurs, dans le cahier des charges, il faut qu'il y ait maximum 30% d'artisans, pas plus. Donc, comment nous y rentrons ? Quelqu'un d'intéressé peut venir proposer sa candidature par écrit. En fonction des produits qu'il propose, s'il y a déjà un producteur présent qui fait les mêmes produits, c'est celui qui est déjà présent qui dit « moi, oui, effectivement, j'arrive pas à assurer en quantité, donc pourquoi pas ?» Mais il peut aussi mettre son veto en disant « non, ce n'est pas possible ». Mais il y a des produits que nous n'avons pas. Voilà. Mmh. Par exemple, nous n'avons pas de volaille, de chair à la boutique. Les candidats sont les bienvenus, mais il y a une sélection à l'entrée. Et après, ça implique aussi du temps à consacrer à la boutique, puisque nous avons des réunions tous les mois. Tout est autogéré, donc il faut faire tous les travaux d'entretien et autres ensemble. Il y a les permanences, il faut livrer régulièrement. Ça n'est pas que poser ses produits et repartir.
Ouais, heureusement, c'est ce qui justifie, justement, tu parlais des 10 euros tout à l'heure, quand même, un revenu assez conséquent. Ça fait partie d'un tout, quoi.
Alors, ce sont des choix. Ça sous-entend que si on est un gros producteur avec des gros volumes, ça ne peut pas suffire sur un débouché. Et c'est pour, comme on dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, quelqu'un qui est habitué à poser, à vendre moins cher, mais à poser ses produits et repartir, ce sont des choix. Là, on gagne plus, mais on donne plus de notre temps. Ce sont des choix.
Là, on est devant ton beau potager là, avec les poireaux. Ah, il y en a partout. C'est ça qui est génial. On dit souvent, finalement, que c'est assez simple de devenir maraîcher, maraîchère. Est-ce que c'est simple ? Et toi, comment t'as appris au final ?
Alors, mes parents étaient agriculteurs, mais absolument pas du tout dans ce secteur-là. Mon père était, céréalier et producteur de melons. Mais j'ai un BTS agricole en formation initiale, grande culture, donc rien à voir. Donc quand j'ai décidé de changer de vie, j'ai fait un BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, pendant un an, et là spécifiquement sur le maraîchage biologique. Pourquoi le maraîchage ? Parce que dans l'Hérault, le foncier est très difficile d'accès et je vivais sur une parcelle agricole. Et donc, c'était la seule activité agricole que je pouvais faire sans avoir de recherche de foncier difficile à faire.
Et qu'est-ce qui t'a amené ici à Bédouès ? C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, ou comment ça s'est passé ?
Mon conjoint est originaire de Lozère, mais il travaille à l'extérieur. Et en 2011, on cherchait quelque chose dans les Cévennes, gardoises, lozériennes, enfin dans le secteur, quoi. Et en 2012, ça ne s'est pas fait. Il se trouve que je me suis quand même installée dans l'Hérault, parce que l'idée, c'était de venir en Lozère et de passer le cap du salariat à l'exploitation agricole. Ça ne s'est pas fait, donc voilà, on a continué de chercher. Nous sommes persévérants. Et en 2017, voilà, nous avons trouvé ce site qui est une folie, on va dire. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ça reste quand même une folie. Mais nous assumons.
Ah, ça, je l'ai voulu souvent. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on connaît quand même. Et les premiers étonnés.
Qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier de maraîchage comme ça, selon toi ?
Le plus dur, c'est le côté physique, parce que comme c'est une petite surface, je suis un peu mécanisée malgré tout, mais il y a quand même beaucoup de tâches qui se font à la main. Et comme on dit, la terre est basse. Et que chaque année qui passe, c'est un petit peu plus dur à faire. Il faut pouvoir se préserver, parce que là, c'est la onzième année. Et je reconnais que j'essaie de réfléchir à comment je fais mes tâches pour me préserver physiquement. Mmh. Mais il y a tellement de choses qui sont pleines de joie quand on voit, quand on sème des graines, qu'on plante des petites, une petite graine de tomate, qu'on voit qu'elle pousse, qu'après elle donne des tomates, c'est quand même magique. Donc tout ça, ça passe au-dessus des contrariétés ou des petits problèmes qu'on peut avoir. Et ce qui est difficile aussi, c'est de faire avec le climat qui évolue, même ici. Mais peut-être que ce sera la Côte d'Azur française plus tard.
On continue le voyage avec Laurence. Pour la prochaine question, un petit mea culpa de ma part, car ma question ne va pas être claire sur la question de la restriction de l'eau pour les producteurs, productrices en ce qui concerne le label AB. La production biologique doit faire une utilisation responsable de la ressource en eau et le processus de production doit prendre en compte les conditions climatiques et locales. Bref, ma question n'était pas claire, mais Laurence, avec brio, remet tout à sa place. Merci beaucoup Laurence, que le voyage continue. Donc, dans le cahier des charges pour le bio, je pense pas que l'eau soit... donc, t'as pas de restriction d'eau, entre guillemets. Je pense pas, hein, c'est pas dans... Si, ça y est, ça a changé, c'est trop beau.
Oui, nous avons des restrictions d'eau, parce que là, coule, peut-être on l'entend derrière le micro, il y a le Tarn, donc je suis située dans un méandre du Tarn. Donc, pour pouvoir prélever de l'eau, ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est une autorisation préfectorale. Okay. Il faut justifier des surfaces, des besoins cohérents avec les surfaces. Et quand nous sommes en état de crise ou d'alerte, il y a des restrictions et un planning, ça s'appelle les tours d'eau, où on ne peut pas prélever de l'eau comme on veut, quand on veut. Donc là, on peut aller voir, hein, j'ai une pompe qui prélève l'eau dans le Tarn et j'ai un compteur d'eau. Et je dois, chaque année, donner mon provisionnel en début d'année et à la fin d'année, de relever le compteur d'eau. Et on peut avoir des contrôles de la police de l'eau.
Voilà. Attends, ça veut dire que tu arrives à prévoir la quantité d'eau dont tu vas avoir besoin à l'année ?
Ben, il le faut. Quand on fait la demande d'autorisation de prélèvement de l'eau, il faut pouvoir donner un prévisionnel. Donc ça reste aléatoire, mais c'est aussi, nous sommes des professionnels, on a beau être agriculteur, et aujourd'hui on ne vit pas avec l'air du temps, il faut prévoir, anticiper et gérer les choses, même l'eau.
L'année dernière, on avait connu une sécheresse assez exceptionnelle. Est-ce que tu as réussi à t'en sortir, à passer à travers les gouttes? Sans jeu de mots, évidemment.
Paradoxalement, nous avons eu moins de restrictions que l'année d'avant. Très surprenant. Mais les tours d'eau sont quand même faits de façon raisonnée et sensée. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité que nous avons, par exemple, dans le maraîchage, on peut prendre de l'eau à certains moments de la journée, enfin, de la nuit plutôt, en cas de restriction. Il faut mieux arroser la nuit. De toute façon, moi, je n'arrose que la nuit. Les plantes en profitent beaucoup mieux. Et je suis tout en goutte à goutte pour justement limiter la consommation d'eau.
Ça, c'est un bon conseil, hein. Ne jamais arroser en journée, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien, surtout en aspersion. On perd plus de 50% de l'eau qu'on souhaite mettre.
On est mi-avril quand je suis chez toi. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a des poireaux, qu'est-ce qu'on a dans les paniers ?
Eh bien, l'hiver est terminé et le printemps n'est pas encore arrivé parce que, comme tu peux le voir, il n'y a pas de serre ici. Je fais tout en plein champ, donc ma saison démarre vraiment plutôt en juin. Là, c'est la période creuse. Il me reste du poireau, quelques betteraves, quelques blettes, mais c'est tout actuellement. Et là, je suis en train de préparer la saison suivante, c'est-à-dire que j'ai semé et planté des oignons, betteraves, blettes. J'ai des fraisiers également, j'ai repiqué des topinambours, alors ça fait pas très ça fait pas rêver, hein, mais les tomates, les poivrons, tout ça, c'est encore bien au chaud, ils ne sortiront que mi-mai. J'attends toujours les saints de glace, je reste comme les anciens. D'ailleurs, nous faisons bien, hier il faisait très chaud, et aujourd'hui, moins chaud.
J'avoue. Aujourd'hui, il y a un vent, mais bon, c'est agréable quand même de bosser par ce temps-là, peut-être plus que dans les fortes chaleurs.
La semaine dernière, on se serait cru en été, à 30 degrés à l'ombre, en plein après-midi, là, je ne sais pas combien il faisait au soleil. C'était très très chaud, oui, très très chaud. Moi, je préfère un temps comme ça, oui.
Donc là, si j'ai bien compris, tu prépares tout pour amorcer ta saison. Est-ce que tu as des peurs, des craintes pour l'avenir, ou alors est-ce que tu es plutôt confiante et, en tout cas, ta manière de faire fait que, quoi qu'il arrive, ça fonctionnera pour toi?
Alors absolument pas, on peut jamais être sûr de rien, mais dans cette profession, il faut un minimum positiver, sinon on peut pas durer.
C'est un vrai plaisir en tout cas d'être là. Et puis donc on te retrouve, on retrouve tes produits à la boutique Paysan de l'Esplanade à Florac. Et puis sur les marchés, tu fais des marchés aussi l'été?
Alors ici non. Mais comme voilà, j'ai gardé mon marché depuis 11 ans à Montarnaud, puisque j'étais à l'époque à Montarnaud dans l'Hérault. Et mes clients fidèles, ben voilà, je peux pas arrêter ce marché-là. C'est pas possible.
Merci beaucoup, Laurence.
Merci à vous et peut-être à bientôt à la boutique de l'Esplanade.
Producteur de sens.
Une émission où on met en avant les producteurs locaux qui luttent contre les pratiques industrielles des plus grands.
Techniques anciennes et innovantes.
Méthodes peu banales mais on ne peut plus locales.
C'est la passion qui fonde des producteurs de sens.
Retrouvez-les pour un nouveau portrait chaque mois, diffusé un vendredi sur deux à 17h.
Et un dimanche sur deux à 11h.
Sur Radio Bartas, 107 FM.